Au nom de Jésus, je te remercie que tu es là et que ton esprit est là et que ta parole est vraie. Seigneur, merci, Seigneur, que tu es la réponse à toutes nos questions. Tu es le remède pour toutes les choses, Seigneur, qui peuvent nous faire mal. Tu es, Seigneur, notre joie. Tu es notre paix. Tu es, Seigneur, tous. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, se trouve en toi. Et nous te remercions que ce matin, que chaque homme, chaque femme va avoir un cœur bien disposé. Seigneur, les yeux de leur esprit vont être ouverts. Ils vont avoir les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit à l'Église. Et Seigneur, merci que ce matin, nous allons être transformés de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. En fait, il y a une déclaration qu'on aime faire ici à l'Église. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre dans vos mains. Sinon, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte qui contient presque tous les versets de la parole que nous allons étudier ce matin. Et on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles avec moi à l'Évangile de Jean. Et j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous celui qui est au milieu de vous? Connaissez-vous celui qui est au milieu de vous? Vous dites, oui, mais je connais mon mari qui est à côté de moi, ou mon fils, et mon ami ici, mais il y a quelqu'un d'autre qui est au milieu de nous ce matin. Et la question qui se pose, c'est, est-ce que vous le connaissez pour vrai? Vous savez que Jésus l'a dit, que si deux ou trois d'entre vous, si vous êtes assemblés à mon nom, que je suis là, au milieu de vous. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à l'Église ici aujourd'hui parce que vous croyez en Jésus-Christ? Combien de vous croyez en Jésus? Vous vous êtes assemblés ce matin, ce n'est pas au nom d'une autre personne, une autre chose, ce n'est que pour une seule raison que vous êtes venus, c'est parce que nous voulons célébrer et honorer le nom de Jésus. Et c'est-à-dire qu'il est là. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Mais son esprit est ici et c'est pas juste une théorie. De la même façon qu'il y a des ondes de la radio qui sont dans la pièce, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, mais ces ondes sont réelles. Et si on avait une poste de radio, on pourrait entendre les mots. Il y a des personnes qui parlent sur la rue Saint-Georges à Drummondville. Avec la poste de radio Boom FM, ils sont en train de parler maintenant même, mais on les entend pas. Mais leur voix est présente dans la salle. N'est-ce pas vrai? C'est là. Et si vous avez un pote, et si il y a des jeunes sûrement aujourd'hui qui ont des MP3 avec eux et avec une petite poste de radio, ils pourraient l'entendre, mais je ne vous suggère pas de le faire. Mais savez-vous, de la même façon, l'Esprit Saint est ici aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, il est là. Et ce n'est pas juste les ondes. C'est pas juste une transmission, mais c'est sa véritable présence qui est là. Mais combien de fois on ignore la présence de Dieu, ou on est peut-être conscient dans notre tête qu'il est là, on va dire, oh oui, je crois qu'il est ici, mais on n'est pas vraiment au diapason, on n'est pas vraiment, notre récepteur spirituel n'est pas bien tuné. Comprenez? Et parce que on n'est pas au diapason de l'Esprit, l'Esprit peut nous parler et on peut passer à côté de ce qu'il nous dit. L'Esprit va vouloir nous transmettre les choses. Jésus veut toucher les corps malades aujourd'hui, mais des fois, parce qu'on n'est pas au diapason de l'Esprit, on passe à côté. Et ce matin, je veux qu'on soit tous bien tunés, qu'on soit tous au diapason du Saint-Esprit et de la présence de Jésus-Christ. Mais il y a un verset, un passage dans la parole de Dieu, en Jean chapitre 1, qu'on va lire. Et tout cela, c'est en préparation pour le repas du Seigneur que nous allons prendre tantôt. Parce qu'on ne veut pas juste prendre le repas du Seigneur d'une façon traditionnelle, ou juste parce que c'est une chose que nous faisons quand on vient à l'église une fois par mois, ici dans notre église, une fois par mois. D'habitude, le premier dimanche du mois, on le prend. Mais vous savez, on ne veut pas le faire juste machinalement. On veut expérimenter la présence de Dieu d'une façon particulière ce matin. Combien de vous voulez vraiment être en contact avec Jésus ce matin? C'est bon parce que si vous êtes en contact avec Jésus, toutes les choses qui vont mal dans votre vie peuvent être guéries. Toutes les choses qui ne fonctionnent pas peuvent être réglées. Je ne dis pas que tout va changer du jour au lendemain, mais c'est lui qui est la source de la vie, c'est lui qui est le remède à tous vos problèmes. Mais ici, on voit une histoire de Jean le Baptiste. Et Jean leur répondit, parce que les pharisiens, en fait, si vous voulez savoir un peu le contexte, les pharisiens sont venus lui poser la question, si vous n'êtes pas le Christ, pourquoi est-ce que vous baptisez les gens? Pourquoi est-ce que vous faites les disciples? Pourquoi est-ce que vous faites cela si vous dites que vous n'êtes pas le Christ? Et puis, on voit en verset 26, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, et encore souligner cette phrase, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Combien de fois ça arrive? Jésus est là, il est au milieu de nous, et soit les gens ne le connaissent pas, ou ceux qui le connaissent ne le reconnaissent pas. Vous savez de quoi je parle? Verset 27. Qui viennent après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Tout le monde dit l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Et ça, c'est super intéressant, parce que si vous connaissez votre Bible, vous savez une chose. C'est que Jean-Baptiste, dans le naturel, était parenté avec Jésus de Nazareth. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il était son quoi? Son cousin. Et on sait que c'est qui est venu au monde en premier? C'est Jean-Baptiste qui est venu, même quand l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle tomberait enceinte par la vertu de Dieu, que la Vierge allait concevoir dans son ventre le Fils de Dieu, l'ange lui a dit que ta cousine, Élisabeth, elle est déjà dans son sixième mois. Donc, on sait que Jean-Baptiste était plus vieux que Jésus, mais ici, il dit que « il m'a précédé quand il était avant moi ». N'est-ce pas intéressant? Et je ne le connaissais pas. Imaginez, il grandissait avec son cousin. Sûrement, ils jouaient ensemble. Ils faisaient toutes sortes de choses ensemble en grandissant. Mais pendant leur enfance, Jean n'a pas reconnu que son cousin était le Fils de Dieu. Et combien de fois les jeunes aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas Jésus en vous. Ils ne reconnaissent pas, même les chrétiens, ils viennent à l'église ou chez eux, n'importe où. Ils ne reconnaissent pas la présence de Jésus à tous les jours de leur vie. Mais Jésus est là. Et il faut le reconnaître. Amen. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Parce que n'oubliez pas, à cette époque, il y avait des gens qui suivaient Jean-Baptiste. Ils ne suivaient pas Jésus, ils suivaient Jean. Jean, c'est celui qui avait le ministère, qui baptisait les gens, qui prêchait la parole de Dieu. Et il était là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Tout le monde dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils suivirent Jésus. Savez-vous, Jésus était avec eux, Jésus était au milieu d'eux, mais avant le moment qu'ils ont reconnu et ils ont connu la vraie identité de Jésus de Nazareth. Ils ne savaient pas. Mais dès qu'ils ont su que Jésus était le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dès que leur leader, Jean, a dit « Voilà l'agneau de Dieu », les disciples ont dit « Bon, on ne te suit plus, on suit Jésus ». Et laisse-moi vous dire, ça c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dès que vous commencez à avoir une révélation de la présence de Dieu dans votre vie, et dès que vous reconnaissez que Jésus est au milieu de vous, et en plus, la Bible dit pour ceux qui sont en Jésus, que Jésus habite dans notre cœur, il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on va laisser Jésus passer? C'est sûr que c'est passé ici, n'est-ce pas? Et ils ont dit que... Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Moi, je ne veux pas laisser Jésus passer. Je veux le suivre. Et il nous invite à le suivre aujourd'hui. Il nous invite à le suivre de tout notre cœur. Mais il faut le reconnaître. Il faut savoir qu'il est le Fils de Dieu. Il faut reconnaître plusieurs choses. En fait, je vais vous donner quatre choses qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Des choses simples. Mais savez-vous quoi? Des fois, on complique l'Évangile. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, « Je ne suis pas venu chez vous avec les paroles persuasives de la sagesse des hommes, mais je suis venu comme quelqu'un qui ne connaissait rien sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Savez-vous que si vous ne reconnaissez pas Jésus, vous n'avez rien et vous êtes rien et votre vie vaut rien? Allô? Vous pouvez avoir toutes les choses que l'argent peut acheter. Vous pouvez avoir la plus belle blonde, le plus beau chum. Vous pouvez avoir la plus grosse maison, la plus grosse auto. Et si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Absolument rien. Mais regardons, il y a un verset que j'aime tellement. 1 Pierre chapitre 1. Et l'apôtre Pierre aussi, il exhorte les chrétiens en disant ceci. Verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. » Vous devrez souligner cela. La vaine manière de vivre. Vous savez qu'il y a deux manières de vivre. Il y a une manière de vivre qui porte du fruit. Il y a une manière de vivre qui va porter un fruit éternel et qui vaut quelque chose. Et il y a une manière de vivre qui est vaine. Vous pouvez passer 70, 80, 90 ou même 100 ans sur la planète Terre en faisant de l'argent, en faisant l'amour, en faisant ceci, en faisant cela, et à la fin, ça vaut rien. Ou vous pouvez passer vos jours ici sur la Terre en faisant la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, oui, vous allez faire l'argent aussi, oui, vous allez faire d'autres choses aussi. Je ne vais pas mettre trop l'accent là-dessus, hein? Mais c'est vrai, les gens pensent que, oh, mais si je vis pour Jésus, ça va être la vie d'un moine quelque part. Il va falloir que je jette mes vêtements, que j'achète une robe, que je me rase la tête et je me cache dans un monastère quelque part. Maintenant, ce n'est pas ça. Jésus est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez avec abondance. Vous allez avoir les meilleures relations avec vos amis, avec votre conjoint. Vous allez avoir le meilleur succès, la meilleure réussite dans vos affaires et pour votre travail. Vous allez réussir et être prospère à tous égards. Qu'est-ce que Jean a dit, Jean 3, 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Mais savez-vous, si vous avez Jésus, vous pouvez avoir toutes ces autres choses pleinement avec lui. Mais si vous avez toutes ces choses sans Jésus, vous n'avez rien. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, encore on revient à 1 Pierre 1, verset 18, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comment on dit le sang précieux de Christ? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour le sang de Jésus? Comme d'un agneau, soulignez encore ce mot agneau, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Tout le monde dit à cause de moi. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc là, si on prend ces deux passages, Jean-Baptiste qui disait que bon, moi je ne connaissais pas Jésus, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, mais l'Esprit m'a révélé que c'est lui, c'est le Fils de Dieu. Et quand il a révélé Jésus à ses disciples, les disciples ont commencé à le suivre. Là, on voit l'autre passage de Pierre qui parle du fait que nous ne sommes pas rachetés de notre vaine manière de vivre par l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus qui était comme un agneau de Dieu. Donc, on voit qu'on a besoin de reconnaître des choses. Et en fait, dans le passage de Pierre, il y a cinq choses qu'on veut souligner. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais on va regarder ces choses comme il faut. Et il faut que vous vous posiez la question. Avez-vous la révélation, pas juste la connaissance intellectuelle, mais avez-vous la révélation de qu'est-ce que nous allons voir dans ce passage? Est-ce que vous savez qui est Jésus? Est-ce que vous le connaissez d'une façon intime vous-même? Êtes-vous en relation avec lui? Je ne demande pas si vous êtes religieux ou si vous fréquentez l'Église, mais est-ce que vous connaissez celui qui est au milieu de vous? Bonne question, n'est-ce pas? Mais première chose qu'on voit ici, c'est que Jésus est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Jésus est l'agneau prédestiné. Pourquoi est-ce que la Bible appelle Jésus un agneau? C'est quoi l'affaire? Est-ce que c'est pas trop poli d'appeler le Fils de Dieu un agneau, un animal? Mais pourquoi? C'est parce que si vous connaissez votre Bible, et si vous connaissez le plan de Dieu pour nous sauver de nos péchés, nous savons que quand Adam et Ève ont été placés dans le jardin, Dieu a donné les ordres. Il a dit que tu peux manger de tous les arbres qui sont ici, sauf il y a un arbre au milieu du jardin, vous touchez pas, parce que la journée que vous en mangez, vous allez quoi? Mourir. Est-ce que Adam et Ève connaissaient c'était quoi la mort? Est-ce qu'ils connaissaient la mort? Est-ce qu'ils avaient une révélation de la mort? Je crois que non. Tout ce qu'ils savaient, c'est que Dieu a dit de ne le pas faire. Si tu le fais, vous allez mourir. Mais Dieu savait qu'ils allaient le faire. Et Dieu avait un plan. Même avant qu'il a dit que la lumière soit, il a planifié d'envoyer son Fils comme un sacrifice, comme un substitut, quelqu'un qui allait mourir à notre place. Et dès qu'Adam et Ève ont péché, on peut même lire cela en Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a donné une promesse et Dieu a donné même une prophétie. En Genèse 3, 15, il a dit à Satan, le serpent, que la semence de la femme va écraser ta tête et tu vas blesser son talon. C'est la semence de la femme. Vous savez que quand on parle de la reproduction, la semence ne vient pas de la femme, la semence vient de l'homme, n'est-ce pas? C'est l'œuf qui vient de la femme, la semence vient de l'homme. Mais ici, Dieu a dit la semence de la femme. Il parlait de quoi? Il parlait du fait que la Vierge allait tomber enceinte et que Dieu serait le père de cet enfant. Et que l'enfant qui allait naître serait comme un agneau qui serait sacrifié pour sauver le péché ou le monde de leur péché. Donc on voit que l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui était immolé même avant la fondation du monde. Et on peut voir cela, je pense que je l'ai mis sur le PowerPoint. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Laisse-moi vous poser une question. Où est-ce qu'on trouve la peau? Est-ce que Dieu est allé chez Zellers pour acheter un vêtement de peau? Non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris les animaux, je ne sais pas si c'était un animal ou deux, mais probablement plus qu'un, mais on ne sait pas. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué clair, mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que Dieu a fait des vêtements de peau pour Adam et Ève. C'est ma conviction, c'est mon opinion, que probablement qu'est-ce qu'il a fait? On sait qu'il a pris un animal. Et pour moi, je crois probablement que c'était un agneau. Probablement. Peut-être que c'était autre chose. Mais c'était probablement un agneau. Et je veux juste que vous sachiez, pensez à ça. Dans le jardin, il est même possible que Adam et Ève avaient la possibilité de parler avec les animaux. Peut-être. Parce que le serpent parlait à Ève et Ève n'était pas dérangée par le fait qu'un serpent lui parlait. Encore, ça c'est juste une opinion, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose quand même. La dynamique dans le jardin était différente. Donc le serpent a parlé à Ève, elle n'était pas dérangée. Donc, il est même possible que Adam et Ève étaient capables de communiquer avec les animaux. Mais pensez à ça. Adam et Ève, ils ont péché, ils se sentent culpabilisés, ils ont peur, ils ont honte, ils se cachent de Dieu, et Dieu est venu les chercher. Et là, ils sont face à face avec le Créateur, tout nu, avec la culpabilité du péché. Et Dieu avait dit, la journée que tu en manges, vous allez mourir. Et ils sont morts, mais pas physiquement, spirituellement. Et ils ne savaient même pas exactement c'était quoi la mort, mais ils commençaient à goûter les résultats. La peur, la crainte, la honte, ce n'est pas une belle histoire. Et Dieu avait besoin de leur montrer. Maintenant, il faut que le sang coule afin que vous soyez sauvés. Donc, Dieu a pris cet animal ou ces animaux, que peut-être c'est des animaux avec qui ils ont même eu des conversations, je ne sais pas, ça c'est juste moi. Ça c'est juste moi. Ces animaux qui n'ont rien fait, est-ce que les animaux ont péché? Est-ce que c'est les agneaux qui ont fait quelque chose de mauvais? Non, mais Adam et Ève avaient besoin d'être là, probablement, et voir, Dieu prend ces animaux innocents, les égorger et de voir le sang couler. Tout en sachant que ces animaux sont en train de mourir pour mes péchés. Et Dieu a couvert la nudité et la honte d'Adam et Ève avec la peau de ces animaux. Et le sang de ces animaux les a sauvés, si vous voulez, de la punition immédiate de Dieu. Et tout cela, pourquoi? Dieu avait ce système en place dès le début, et pendant tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu dit à son peuple de prendre un agneau et de l'immoler. Et on voit ça en Exode 12 avec la Pâque, on va voir ça tantôt, que quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est le sang de l'agneau qui les a sauvés. Quand ils ont construit le tabernacle et puis le temple, ils avaient besoin d'amener les agneaux et les autres animaux pour les sacrifier afin que le sang de ces animaux puisse couvrir leurs péchés. Combien de fois vous êtes contents que Jésus est venu et qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde? Alléluia. Il y a verset Romains 3, 25. Regardons ceci. C'est lui qui a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Et le mot propitiatoire, ça veut dire tout simplement un substitut qui est acceptable. Pas juste un substitut, mais un substitut qui est acceptable. C'est pas tout le monde qui était acceptable, parce que tout le monde a péché, sauf Jésus n'avait jamais péché. Il était acceptable. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. 2 Timothée 1:9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Soulignez cette phrase, avant les temps éternels. Savez-vous que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu vous a été donnée avant que Dieu a dit que la lumière soit. Le plan était déjà, le dessein était déjà en place. C'est des choses que vous savez, mais est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui jusqu'à quel point nous sommes bénis d'avoir un Dieu qui a planifié un si grand salut avant la fondation du monde? Je suis content que je ne suis plus destiné à l'enfer. Je suis content que je n'ai plus besoin de payer pour mes péchés. L'enfer est réel. C'est un véritable endroit de tourment et de souffrance. Et c'est là où j'étais destiné à aller. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, il m'a déjà accordé cette grâce avant la fondation du monde, mais c'est maintenant manifesté dans ces derniers temps. Et je pense qu'on a besoin d'être reconnaissant pour cela. Et vous? Numéro 2, on voit que Jésus est l'agneau sans défaut et sans faute. Sans défaut et sans tâche, pardon. Pense à cela. On ne parle pas de n'importe qui est mort pour nous. L'agneau de Dieu était l'agneau sans défaut. Jésus était, il est et il sera toujours parfait. Pensez au pire pécheur que vous pourriez imaginer. Je ne sais pas c'est qui. La personne la plus méchante que vous avez jamais entendu parler, que ce soit des personnes comme Hitler ou les autres personnes qui font des choses méchantes et cruelles. Et pensez que Jésus, le Fils de Dieu, qui était parfait, tentait toutes choses comme nous, mais sans avoir péché, qu'il est venu sur la terre et il a pris leur place à la croix. Le juste est mort pour l'injuste. Alors, est-ce que vous êtes content ce matin? Hébreux 7, 26 dit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, de la même façon que Adam et Ève voient ces animaux mourir et voient le sang couler et voient que ces animaux qui étaient en vie, qui jouaient peut-être quelques minutes avant, maintenant ils sont morts. Et ils se rendent compte du fait que c'est moi, ça c'est la mort. Il a dit que je vais mourir, c'est ça que j'ai mérité. Ça doit être moi qui est par terre avec le sang coulé et qui est capote. Mais vois-tu, on devrait avoir la même réaction quand on voit Jésus à la croix. Quand on voit Jésus à la croix, on devrait reconnaître, reconnaissez-vous celui qui est au milieu de vous. On devrait reconnaître que c'est l'innocent Jésus qui est l'agneau sans défaut et sans tache. C'est lui qui meurt à ma place. C'est moi qui devrais être cloué à la croix. C'est moi qui devrais mourir pour mes péchés. Il n'a rien fait. Il n'y avait pas de fraude en lui. Il n'y avait rien de mal en lui. Il était parfait. Mais par son amour et par sa grâce, il a pris une décision. Personne n'a ôté sa vie. Il a donné. Il a donné pour nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Numéro 3, reconnaissez-vous que son sang a ôté nos péchés et sa chair a guéri nos corps. Est-ce que vous savez que l'agneau de Dieu, c'est si grand, c'est si merveilleux ce plan de salut? Dieu avait un plan de nous sauver de nos péchés et de nous guérir de nos maladies. Psaume 103 dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. » Dieu a prévu un salut complet, entier pour l'homme entier. Esprit, âme et corps. N'est-ce pas merveilleux? Mais on voit Jésus cloué à la croix. Mais avant d'être cloué à la croix, il a été battu de verge, n'est-ce pas? On voit qu'il a versé son sang même 3 fois. Dans le jardin, il est en train de prier, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'avait pas le goût d'aller à la croix. Sa chair, son corps, ses émotions ne voulaient pas mourir ou être torturées. Il a dit, Père, si c'est possible. Et la Bible dit que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Il a expérimenté une angoisse dans son âme, dans ses émotions. Savez-vous que le sang de Jésus a été versé pour guérir vos émotions aussi? Amen. Mais puis, il a été battu de verge. Il a été frappé par des soldats. Ils ont arraché sa barbe. C'était cruel la façon qu'ils ont torturé notre Seigneur et notre Maître. Le fouet qu'ils utilisaient avait des bouts de métal et de verre au bout de chaque corde de cuir. Et à chaque fois que ça touchait son corps, ça prenait la chair et ça arrachait des morceaux de chair. Et à chaque fois qu'il a subi cette punition que nous avons méritée, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Puis on voit une troisième fois, quand il est cloué à la croix, ses mains sont percées, ses pieds sont percés, et finalement son côté est percé, et le sang et l'eau a coulé. Il était percé pour nos iniquités, n'est-ce pas? C'est mes péchés. Et là encore, je vois que Jésus, son sang a été versé, son corps a été brisé, il est l'agneau de Dieu, comme Dieu a tué ses agneaux pour sauver et couvrir les péchés d'Adam et Ève. C'est ça la chose qu'il faut jamais oublier. Dans l'Ancien Testament, une fois par année, les sacrificateurs avaient besoin d'immoler un agneau et le sang couvrait les péchés du peuple pendant un an. Et la Bible dit pas que le sang de Jésus couvre nos péchés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Une seule fois, un seul sacrifice. Alléluia. Et on voit un symbole de cela en Exode 12, on va le lire ici. Quand le peuple de Dieu était esclave en Égypte, Dieu a dit, bon, finalement, Pharaon ne voulait pas le laisser aller. Il a envoyé tous des fléaux. Le dernier fléau qu'il allait envoyer, c'était quoi? Le fléau de la mort du premier-né. Et l'ange destructeur allait passer dans le pays. Et chaque premier-né dans chaque maison allait mourir. Et chaque premier-né de tous les bétails allait mourir. Mais Dieu a dit, j'ai un plan de sauver mon peuple. Et le plan, c'est facile. Prenez un agneau, sans défaut, sans tâche. Chaque famille. Et au même moment, tout le pays, toute la nation, tous les Hébreux vont immoler cet agneau au même moment. Et on va prendre le sang de cet agneau, au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servirez de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Qu'est-ce qu'il va voir? Le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est la Pâque. Et en fait, on voit dans le Nouveau Testament qu'à Christ, notre Pâque a été immolée. Donc, cet agneau, c'était tout un symbole de Jésus qui allait venir. Le sang appliqué à la Pâque les a sauvés de la mort. La chair qu'ils ont mangée ont guéri leur cœur, ont donné la force nécessaire pour marcher, et tout le peuple sont sortis dans une seule nuit, une population grande comme la ville de Montréal. Imaginez si demain matin, tout le monde à Montréal, tout le monde qui sont dans les hôpitaux, dans les foyers pour les personnes âgées, tout le monde a besoin de partir et de marcher. Mais le peuple de Dieu était capable de le faire et le psaume 105 dit qu'il n'y avait personne parmi eux qui traînait le pied. Personne traînait le pied. C'est miraculeux, n'est-ce pas? Et en plus, ils sont sortis avec tout l'or et l'argent des Égyptiens. Donc Dieu les a sauvés de la mort. Dieu a guéri leur corps. Et Dieu même a donné une prospérité à son peuple en les délivrant du péché et en les délivrant de l'ennemi. N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est qui l'a fait? Dans le fond, c'était le sang et la chair de l'agneau que Dieu a utilisé. Mais Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardons ce verset ici. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ça parle dans l'Ancien Testament, il avait besoin de répéter ces sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, tout le monde dit un seul sacrifice. Un seul, c'était assez. Pourquoi? Parce que le sang qui coulait dans les veines de notre Seigneur Jésus, c'était le sang de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le sang de Jésus. Nous allons reconnaître que celui qui est au milieu de nous, il a payé le prix, il a payé cher, et il a fait par amour pour nous. Il est mort pour moi, il est mort pour vous. Gloire à Dieu. Reconnaissez-vous l'agneau de Dieu. Il est là. Il est là. Je pense qu'il mérite notre honneur aujourd'hui. Je crois qu'il mérite notre révérence. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Il mérite la dévotion de notre cœur. Il mérite tout ce qu'on peut lui offrir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas, c'est vrai. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis tellement reconnaissant. Alors, vous le savez, Jésus a paru pourquoi? Pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Numéro 4. Reconnaissez-vous que Jésus a été manifesté à cause de vous. Tout le monde dit à cause de moi. Pourquoi est-ce que l'agneau de Dieu est venu? Il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour nous. Il est venu pour vous. Il est venu pour moi personnellement. Je suis convaincu de ceci et vous avez besoin de cette révélation. Je crois de tout mon cœur que si vous étiez la seule personne sur la planète Terre qui était perdue, qui était séparée d'avec Dieu à cause de vos péchés, que l'agneau de Dieu, Jésus, il aurait pris la peine. Et quand je dis la peine, je veux dire la peine, la souffrance, la douleur. Il aurait pris la peine de venir sur la terre, de quitter les cieux, de prendre la forme d'un serviteur, de devenir un homme. Et celui qui est innocent, il aurait fait le même geste. Il aurait offert son corps, son âme, son esprit en sacrifice pour vos péchés. Est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin? Oh Seigneur, je ne veux pas le prendre pour acquis. Je ne veux pas prendre la Sainte Cène aujourd'hui d'une façon juste à l'alléger. Seigneur, c'est quelque chose, ce que tu as fait. Jésus a été manifesté à cause de vous, Pierre a dit. Verset 4 d'Ésaïe, on a fait mention de ces versets, mais écoutons encore une fois. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Tout le monde dit mes souffrances. Tout le monde dit mes douleurs. Qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés. Tout le monde dit mes péchés. Brisé pour mes iniquités. Amen. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Amen. Nous étions, ou j'étais aussi, errant comme un brebis. Chacun suivait sa propre voie. Moi aussi, je suivais ma propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui mon iniquité et l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche semblable à un quoi? Un agneau qu'on mène à la boucherie. Un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Tu sais quoi? Jésus n'était pas obligé de donner sa vie. Il n'était pas obligé de le faire. Jésus a dit, personne ôte ma vie, je le donne. Et même quand il était à la croix, la Bible est claire, il aurait pu, avec un mot, une seule parole, il aurait pu dire, ça c'est assez, ça va faire. Père envoie les anges. Et dans un clin d'œil, 10 000 anges auraient pu venir et écraser tous ceux qui le crucifiaient. Quand les gens se moquaient de lui, « Ah, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de cette croix !» Et les gens se moquaient de lui, mettaient une robe sur lui en disant, « Oh, c'est vraiment prophétie, c'est qui t'a frappé ?» Ah. Il aurait pu dire, « Ben, tu veux voir qui je suis ? Tu veux voir que je suis le lion de tribu de Judas, parce qu'il est le lion aussi, il n'est pas juste un agneau. Veux-tu te faire mordre par le lion ? Veux-tu goûter à la colère de Dieu ? Veux-tu goûter à la puissance de mon Père ? Veux-tu voir que c'est moi qui a créé l'univers entier ? Mais non, comme un agneau muet. Il ne disait pas un mot. Mené à la mort, en sachant que si je ne le fais pas, ces hommes, ces femmes, ces enfants vont mourir, ils vont passer l'éternité à l'enfer. Donc Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il l'a fait. Et je suis reconnaissant aujourd'hui. Parce que sans Jésus, je suis perdu. Sans Jésus, je suis rien. Et sans Jésus, nous sommes rien. Amen. Il est bon. Alléluia. Numéro 5, il faut mettre votre foi et votre espérance en lui. C'est ça qu'on a vu. Toutes ces 5 choses sont basées sur 1 Pierre. quand c'est marqué qu'il était manifesté dans les temps, fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Laisse-moi juste vous dire ceci. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est venu, Jésus est mort, son sang vous sauve de vos péchés, sa chair vous sauve de vos maladies, mais si vous ne reconnaissez pas celui qui est au milieu de vous, est-ce que vous êtes en train d'écouter comme faux ce matin? Si vous ne reconnaissez pas celui qui est au milieu de vous, vous ne pouvez pas en profiter de sa bonté, de son salut, de sa grâce et de sa miséricorde. Il y a un dernier verset que je voulais partager avant de prendre la Sainte Cène. Et c'est en Actes chapitre 8. Et c'est une histoire d'un homme, un eunuque d'Éthiopie, qui était un homme, un diplomate, un homme qui travaillait pour le gouvernement, si vous voulez, fonctionnaire. Mais c'est quelqu'un qui avait de l'importance. Et Philippe l'évangéliste l'a rencontré. Et on voit encore l'amour de Dieu pour les individus, pas juste pour les foules. Parce que Philippe était en train de prêcher en Samarie dans une ville. Et il y avait une grande réunion, un grand réveil. Les gens, toute la ville a cru en Jésus-Christ. Mais pendant cette croisade, le Seigneur a parlé à Philippe et a dit, maintenant descends. Il faut que tu pars. Il a envoyé dans le désert. Il a envoyé dans le désert, pourquoi? Pour rencontrer un homme, un individu. Et quand il a vu cet homme assis sur le char, je ne sais pas si c'était un Toyota, un Honda ou quoi, mais ils avaient les chars dans la Bible, hein? Non. Mais il était assis sur le char, il était en train de lire le prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, « Va, rejoins cet homme. » Et Philippe a couru, la Bible dit. Et verset 32 dit, « Il était en train de lire ce passage de l'Écriture. » Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir. On a lu ça, n'est-ce pas? Comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce que de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de... La bonne nouvelle de... La bonne nouvelle de... Laisse-moi vous dire, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus est la bonne nouvelle. Mais regardons la réponse de cet homme. Regardons qu'est-ce qui s'est passé. Ils commençaient à prêcher la bonne nouvelle de Jésus et en continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe a répondu, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Est-ce que vous voyez quelque chose? Quand Jean-Baptiste a dit, « Voilà l'agneau de Dieu! » Les deux disciples qui étaient avec lui l'ont suivi. Quand l'homme de l'Éthiopie a vu et il y a eu la révélation que Jésus est l'agneau de Dieu, il a dit, il faut que je le suive. Voici de l'eau. Je ne veux pas juste accepter dans ma tête qu'il est le Fils de Dieu. Je veux donner ma vie à lui. Je veux me faire baptiser. Je veux enterrer l'homme que j'étais avant. Et je veux suivre Jésus pour le restant de ma vie. Et aujourd'hui, laisse-moi vous poser la question. Si vous êtes moins jeune ou jeune aujourd'hui, je parle aux ados, je parle aux jeunes, je parle aux personnes qui sont moins jeunes, je parle à tout le monde aujourd'hui. Avez-vous reconnu que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à le suivre de toute votre vie? Est-ce que vous êtes prêt? Quand Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui a versé son sang, il dit, celui qui croit en moi et qui se fera baptiser sera sauvé. Ah, je crois en lui, mais je ne veux pas me faire baptiser. Pourquoi pas? Tu ne veux pas lui obéir? Est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur? Est-ce que vous croyez vraiment en lui? Reconnaissez-vous qu'il est le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est le lion de Juda qui revient bientôt sur la terre. Et moi, j'ai l'intention de revenir avec lui et de régner avec lui. Je vous invite aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Cène. Nous allons prendre le pain qui représente le corps qui a été déchiré pour nous. Nous allons prendre la coupe qui représente le sang qui a été versé pour nous. Mais avant de faire cela, on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas juste prendre pour acquis ce grand événement, ce grand amour, ce salut si merveilleux qu'il a offert gratuitement à nous. Je vous donne l'occasion aujourd'hui, je vous lance l'invitation. Est-ce qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui seraient prêts à dire, voici de l'eau! Nous avons un baptistère ici, c'est pas plein aujourd'hui, mais si c'était plein, je pourrais vous baptiser là. On pourrait le remplir après, si vous voulez. Ou la semaine prochaine, ou peu importe. Mais est-ce que vous êtes prêts à dire, oui, je veux suivre Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à ma place. La Bible dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que vous n'êtes plus obligé d'aller à l'enfer. La bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas mériter le salut. Jésus l'a gagné pour vous. Donc là, sans fermer les yeux, sans baisser les têtes, je vous donne l'invitation aujourd'hui. Combien de vous, vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, mais aujourd'hui, vous aimeriez le faire. Moi, je vais compter à trois, je vais taper ma main, et dès que je tape, ça c'est votre signe, vous dites, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Imaginez, hein? Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière chance que vous aurez. Peut-être pas, mais peut-être, on ne sait jamais. Aujourd'hui, Jésus est en ses bras, ses mains. Il vous invite, venez à moi pour tout ce qui est fatigué. Venez à l'agneau de Dieu. Suivez l'agneau de Dieu. Donnez votre vie à l'agneau de Dieu. Donc, en fait, deux choses aujourd'hui, en fait, peut-être même trois. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus et vous voulez le faire aujourd'hui, je ne vous invite pas à faire partie de cette église, forcément. Vous êtes la bienvenue, mais ce n'est pas l'église qui peut vous sauver. C'est Jésus seul. Mais si vous n'avez jamais fait cela et vous voulez être sûr et certain, sans aucun doute, que vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, je vais vous inviter à lever la main. Si vous êtes pas mal sûr que vous l'avez déjà fait, mais vous vous êtes éloigné de Dieu et vous voulez revenir à Jésus aujourd'hui, je vous invite à le faire. Et peut-être il y a des gens, j'ai vraiment à cœur, il y a des gens qui ont besoin de prendre une décision aujourd'hui. Je veux me faire baptiser. Parce que je veux dire à Jésus, tu n'es pas juste mon sauveur, mais tu es vraiment mon Seigneur. Et si tu m'as demandé de me faire baptiser, je vais le faire. Donc, qui veut suivre Jésus? On veut dire dans l'esprit, voilà l'agneau de Dieu! Qui veut le suivre? Hein? 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une personne? Il y a une autre personne? Quelqu'un d'autre? Qui veut le suivre aujourd'hui? Je vous invite juste à venir, on va prier. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez, on va prier. Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce qu'il y a quelque chose qui est déclenché dans le cœur des gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à eux? Vous avez besoin de venir à Jésus, revenir à Jésus, vous faire baptiser. Je vous invite à venir ce matin. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Merci. Pascal et encore Linda. Quelqu'un d'autre qui veut venir? Donc, je vais attendre juste une minute ou deux. Pas beaucoup. Vous savez dans votre cœur si le Saint-Esprit vous parle. N'ayez pas peur de ce que les autres vont dire ou penser. La Bible dit que la crainte de l'homme, c'est un piège. Et vous voulez vivre pour vrai? Vous voulez avoir la liberté totale? Débarrassez-vous de cette idée de vouloir faire plaisir à votre entourage. Ce n'est pas eux qui ont versé leur sang pour vous. Ce n'est pas Les gars à côté de vous, les filles à côté de vous, les personnes que vous allez voir au travail qui ont versé leur sang, c'est Jésus. Et il vous invite à venir. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je crois qu'il y a d'autres personnes ce matin qui ont besoin de venir. Alléluia. On va prier. Quelqu'un d'autre? Venez à Jésus ce matin. Venez à Jésus. C'est bon. C'est bon, c'est entre vous, le Seigneur, mais c'est quand même... C'est pas juste prier. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, c'est bon ça. Il y a quelque chose qui va déclencher aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Venez. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes. Alléluia. Dieu connaît les cœurs de ces gens. Il sait qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Fais-le vite. Attends pas voir si les autres vont aller ou non. Parce que quand vous serez face à face avec l'agneau de Dieu, le lion de Juda, vous n'allez pas avoir votre ami à côté de vous. Vous n'allez pas avoir votre épouse à côté de vous, votre mari à côté de vous. Vous allez être face à face avec votre Créateur, un à un, cœur à cœur, vous et votre Créateur. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre? Donc, Père Céleste, on va prier cette prière. Je vous invite tout le monde à prier cette prière. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et aujourd'hui, je prends une décision de le suivre. Je vais t'obéir dans les petites choses comme dans les grands. Seigneur, sois le maître de toute ma vie. Je veux te servir. Je n'ai pas honte de Jésus et il n'a pas honte de moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pouvoir qui me donne la capacité de te servir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons des personnes